France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je m'appelle Antonio Pappano. Je suis né à Essex, en Angleterre, le 30 décembre 1959. Et je suis chef d'orchestre et pianiste.
When I was 21, I heard a wise man say, give crowns and pounds and guineas, but not your heart away. Give pearls away and rubies, but keep your fancy free. But I was 21, no use to talk to me. When I was 21, I heard him say again, the heart out of the bosom was never given in vain. 'Tis paid with sighs a plenty and sold for endless room. And I am 22 and oh, 'tis true, 'tis true.
Antonio Pappano, quand vous vous rendez au New York City Opera et que vous découvrez, parce que vous avez aussi vu à Chicago, vous découvrez ce monde des coulisses, cette voix véritablement incarnée sur scène, mais au quotidien, etc. Vous sentez tout de suite que c'est à l'opéra que votre vie va se passer, alors que vous n'êtes pas encore du tout chef d'orchestre, là, disons-le bien. Vous êtes au piano.
Oui, je suis au piano et j'avais aucune envie de diriger. Mais, naturellement, jouant pour plusieurs chefs, on commence à connaître le comment, le pourquoi et comment les choses fonctionnent avec les chanteurs, le geste et qu'est-ce que ça mène et le processus de mettre ensemble un opéra. Ça va s'exploser beaucoup plus quand je dirige ma première opéra, quand j'ai l'expérience en 87. À Oslo, en Norvège, et j'ai eu ma première opportunité pour diriger la Bohème, avec des répétitions. Ça, c'était important de souligner, parce que des jeunes chefs ont des chances pour diriger un spectacle, mais sans répétition. Ils doivent sauter dans la fosse et survivre un spectacle sans répétition. Moi, je savais que ça, c'était pas pour moi. Mais quand j'avais l'opportunité de faire mes répétitions de scène avec piano et d'orchestre, même si j'avais pas d'expérience comme chef d'orchestre, quand j'ai vu moi-même dans une salle de répétition avec le metteur en scène, avec les chanteurs, et toutes mes observations que j'ai faites comme chef de chant, voyant des autres faire ce travail, moi j'étais comme un vulcan. Je commençais à dire à des chanteurs comment ils doivent chanter, comment ils doivent interpréter, comment ils doivent se bouger, de faire toute la mise en scène. Parce que j'ai compris tout de suite que je suis un homme de théâtre, que c'est là où toutes mes forces sont au maximum.
Il sole
peu à peu, j'ai compris comment travailler avec un orchestre, même si j'avais pas un geste parfait, même pas très clair ou efficace à l'époque, j'avais la capacité de leur faire comprendre le théâtre de la chose. Et avec répétition, ils ont appris à me comprendre et ils ont compris tout de suite que j'avais un rapport avec les chanteurs positifs. Et pour une orchestre d'opéra, ça c'est la chose la plus importante, même plus importante de la gestique. Mm-hmm. Et ça crée une unité avec la scène et la fosse. Quand c'est pas là, c'est vraiment très difficile pour l'orchestre. Et ça cause des problèmes, pas seulement d'ensemble, mais d'esprit, de théâtre.
Si on aime le théâtre, commencer avec Puccini, c'est pas mal. On le voit ici dans votre bureau à Covent Garden, c'est Puccini.
Oui, j'ai des grandes photos de Puccini, 4,
ouais.
Différents et formidables.
Hein. C'est cet homme de théâtre chez le musicien qui vous parle spécialement dans votre amour pour Puccini?
Oui, il a une sophistication aussi dans l'harmonie, dans le théâtre. C'est un théâtre très mesuré, très efficace, très distillé, très compact. Et c'est ça que j'aime. Très manipulateur sur le public.
La mort de Mimi, c'est terrible.
Oui, mais il tue tous ses sopranes. Un grand génie du théâtre. Complètement différent de Verdi. Verdi, c'est de l'autre côté de mon bureau aussi. Et Verdi, je suis en train de répéter La Force du Destin maintenant. Verdi, c'est le plus grand de l'opéra italien. C'est tellement solide, tellement vrai. C'est pas manipulateur, c'est la vérité, c'est toujours la vérité quelque part. Mais Puccini, c'est très séduisant. Il faut le dire.
Il faut les deux.
Oui. Et c'est l'histoire de l'opéra italien qui vient de Monteverdi et tout le reste, Rossini, même Handel et le bel canto naturellement, Bellini, Donizetti.
Antonio Papano, conseillé par des chanteurs qui voient chez vous le pianiste qui fait sonner le piano comme un orchestre, qui dirige sans doute les chanteurs déjà depuis son piano. Ce sont eux qui vont vous pousser un peu vers la direction. Et la première expérience à la tête d'un orchestre, je crois que c'est au Danemark.
Oui, il y avait une chanteuse, Inga Nielsen, avec son mari Robert Hale. À l'époque, ils vont vraiment me pousser à considérer la direction d'orchestre. Moi, j'avais vraiment pas envie, mais j'ai eu des chances. Elle m'a amené en Danemark et lui, à les États-Unis, où il avait un ami qui avait une petite orchestre. Et j'ai joué le premier concerto de Mendelssohn au piano. Et dans la deuxième moitié du concert, j'ai dirigé l'horloge de Haydn. Ça, c'était un de mes premières expériences. En Danemark, j'ai joué des concerts avec air d'opéra et ouverture et ça. J'avais aucun talent pour la direction, mais j'avais une énergie, une façon de communiquer l'esprit de la musique quelque part. Les orchestres que j'ai dirigés m'ont pardonné tout et j'ai été réinvité. Et c'est ça la chose la plus importante dans la carrière des jeunes chefs, c'est leur réinvitation de quelque part avoir une continuité, parce qu'on n'a pas une orchestre à la maison. On doit prendre l'expérience en travaillant.
Les grands entretiens d'Antonio Papano, France Musique.
Antonio Papano, à la radio, on ne vous voit pas, mais moi j'ai la chance de vous voir, vous parler avec vos mains tout le temps. C'est difficile de rencontrer un chef d'orchestre et de ne pas parler de ses mains. On voit aussi sur la table basse qui est là, plusieurs baguettes. Pourtant, vous dirigez souvent sans baguette.
Oui, j'ai dirigé 5 ans sans baguette. Et moi, je n'avais jamais un grand rapport avec la baguette. Mais il y a un an, j'avais besoin de quelque chose dans mes mains. Après 30 ans, je me sens maintenant confortable avec la baguette. Moi, je comprends rien.
Thank you.
Est-ce que, Antonio Papano, vous aviez des dieux de la direction? Est-ce que vous étiez plutôt Bernstein, Kleiber, Furtwängler, Giulini? C'était qui vos dieux?
Comme personnalité qui m'a apporté beaucoup, je dois dire Daniel Barenboim. J'étais son assistant pour 6 ans. Beaucoup appris de lui. Naturellement, jouant le piano pour un géant du piano, ça c'est une expérience. Mes chefs préférés, et pour des raisons complètement diverses, Furtwängler, une spiritualité, une atmosphère, toujours atmosphère. Karajan, un maître de plusieurs répertoires, même l'opéra italien, mais le français, Strauss, Bruckner, Wagner, tout, Mozart quand il était jeune. Kleiber, parce que Kleiber, sa mercurialité, son génie. De Sabata, chef italien, grande classe. Toscanini, parce qu'une énergie comme celle de Toscanini est très, très, très rare. Même si le son n'est pas tellement séduisant, un chef d'orchestre peut apprendre ou doit apprendre de celui qui est le plus grand et celui qui est le plus mauvais. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'apprendre dans la direction d'orchestre. Et moi, j'observe. Ça a été ma philosophie. Comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi.
Antonio Papano, quand on est ici dans votre bureau à Covent Garden et qu'on regarde, il y a ces disques-là qui ont été primés et on est frappé de voir qu'il y a le Stabat Mater, le Requiem, le War Requiem. Votre rapport à la musique sacrée, quel est-il? Est-ce qu'il y a quelque chose de...
Oui, il est très fort et ça a toujours été comme ça. Je suis à Bruxelles, j'ai dirigé tous les grandes pièces pour chœur et orchestre, Missa Solemnis, le War Requiem, le Verdi Requiem, le Requiem de Brahms. Et je suis fasciné par ce que les mêmes mots, comment ils sont interprétés par chaque compositeur. Le Requiem de Mozart aussi, of course. Mais à Rome, j'ai fait tout le répertoire de Bach, les Passions, le Magnificat, la Messe. Ça, c'est très important pour moi parce que c'est aussi ma religion quelque part. Je ne suis pas dans l'église chaque semaine, mais j'ai l'église avec Verdi, Bach, Mozart, Brahms, Britten. Ça, c'est mon église, la musique de Bruckner.
Oui, vous êtes en fait entré en musique, comme on pourrait dire qu'on entre en l'église. C'est une religion, la musique. Quand on la choisit, on l'épouse.
Oui, exactement. C'est une vie... C'est un mariage pour la vie.
Et ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui c'est facile, la musique, je veux dire.
Non, mais la musique, c'est une maîtresse très demandeur. Hein. C'est une challenge, hein, parce qu'il y a des obstacles tout le chemin, mais de trouver des solutions dans la musique, de trouver la façon d'exprimer et la façon... de communiquer avec le public ou avec soi-même. C'est une expérience très privilégiés. Hein. Il faut le dire. Nous sommes, comme musiciens, nous sommes privilégiés.
C'est drôle ce que vous dites de communiquer avec soi-même ou avec le public, parce que en vous écoutant, je pense Antonio Papano aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais que ça fait évidemment partie de votre culture, à Maria Callas, et à tous ces moments où on la voit chanter les yeux fermés. On sent qu'elle est complètement avec elle-même et pourtant elle donne tout à tout le monde.
Oui, la force intérieure est une force, une grande force. La communication, c'est très important pour moi. Moi, ici à Londres, j'ai eu l'opportunité pour modérer plusieurs programmes pour la télévision, pour la BBC, sur l'opéra. Parce que je pense que le chef d'orchestre, le mot maître, maestro, veut dire professeur.
Enseigner.
Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de communiquer les idées de notre musique. Nous sommes dans une « information age », le moment de l'information. Alors, il faut donner l'information. Et c'est ça que je fais. Et je pense que tous les chefs sont obligés de le faire aujourd'hui.
Et Leni Bernstein le faisait déjà?
Oui. Bernstein est naturellement le top, parce qu'il était le meilleur enseigneur qu'il y avait. Il a eu vraiment le ton juste de pas, nous disons en anglais, dumbing down, d'être trop...
En bas.
Non.
Facile.
Trop facile, non. La musique, c'est quelque chose beau, mais compliqué, mais comprenant certaines choses, la porte peut être ouverte. Nous sommes là pour ouvrir la porte.
Thank you.
Le dernier mouvement du prélude pour clarinette et ensemble de jazz de Leonard Bernstein par Alessandro Carbonare et l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, placé sous la direction d'Antonio Papano. C'est ainsi que se referme le troisième épisode de nos grands entretiens avec Antonio Papano. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Romain Luquiens, mixage Manu Couturier, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute des grands entretiens sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.